CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne méprise pas les fruits que tu portes ». Et c'est tellement important de ne pas mépriser les fruits qu'on porte. Vous allez bien ?
Ça va très bien.
En ce milieu de semaine,
on continue,
on est prêt jusqu'à la fin de la semaine. Là, on ne lâche pas. Hein.
On ne lâche, lâche pas la patate.
On ne lâche pas la patate. Aujourd'hui,
on parle de fruits, là. On a la pêche et la banane.
Aujourd'hui, c'est ça, on va parler de fruits. Non, pas de fruits comestibles, Jonathan. Désolé, nous allons parler des fruits que nous portons. Mmh. Et très souvent,
on veut...
On n'a pas le melon, Jonathan. Il est en feu. Très souvent, nous avons tendance à regarder les fruits que les autres portent avec envie, en se méprisant nous-mêmes, en disant « je ne suis pas à la hauteur, j'en fais pas assez, je ne suis pas utile pour le royaume ». On va voir que bien souvent, c'est un mensonge. Et Anne, tu nous as préparé, comme toujours, une belle rubrique flashback, cette fois-ci sur Félix Neff. C'est qui ce monsieur ?
Félix Neff, c'était un jeune homme époustouflant. Au début du 19e siècle, un Suisse, tu vois, c'est un compatriote.
Les Suisses sont à l'honneur en ce moment.
Oui, alors c'est un jeune homme absolument fascinant qui, lui, a porté un fruit énorme en très peu de temps.
Waouh !
Alors, c'est un modèle à suivre, alors reste avec nous.
Oui, il va nous faire culpabiliser, c'est ça ?
Un peu.
C'est pour inverser tout ce qu'on aura dit dans le début de l'émission.
Tout ce que vous venez de dire, je le détruis par le flashback.
Ça va être génial.
Allez, Frank. À contrepoint.
Voilà, c'est ça, en équilibre. Ça, c'est pour nous stimuler, nous inspirer.
Exactement.
Donc, Frank, on commence avec toi dans la pensée du jour.
Et oui, aujourd'hui, je veux te rappeler de ne pas mépriser le fruit que tu as porté dans ta vie et que tu portes actuellement, en fait. Et pour beaucoup de personnes, on n'a pas la pensée. Souvent, nous, d'un point de vue extérieur, on va regarder les autres et on va dire « Ah, cette personne-là est pleine d'amour. Cette personne-là est tellement gentille. Cette personne-là, wow, tu vois comment elle est zélée pour le Seigneur. » Et nous, sur notre propre vie, on va mépriser, écraser et on va avoir ce sentiment de culpabilité qui est là. Je veux commencer en pouvant vous lire ce passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » C'est un fruit qui est là. La foi augmente, l'amour augmente, il voit qu'il y a des progrès qui est fait. L'apôtre Paul le reconnaît, non pas pour mépriser, mais au contraire, pour élever, pour se réjouir. Il voit ça comme un sujet de joie, disant « vous étiez là et maintenant vous êtes rendu là ». Et puis dans notre vie, il y a des choses que peut-être avant on faisait pas et aujourd'hui on est rendu qu'on témoigne, on évangélise ou peu importe à quel niveau où ce qu'on est, il y a eu un progrès qui a été fait et il faut se réjouir et être content de ça parce que on a cette mentalité qui est toujours là. Dans les églises, j'ai des messages, je suis le premier, j'en prêche moi-même. On doit porter plus de fruits, on doit augmenter à ce niveau-là. Et puis parfois, on est là, on se dit « ouais, c'est vrai, je dois faire ça ». Ça devient comme un devoir et on n'a plus ce sentiment d'être bien avec ce qu'on a fait. En fait, on a une culpabilité qui est là. Et quand je regarde la vie de l'apôtre Paul à la toute fin, il écrit à Timothée, il lui dit dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et il n'a pas continué en disant, malgré mes petits fruits qui ont servi à rien, et qui, non, il était heureux, il savait ce qu'il attendait. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il avait combattu le bon combat, il était fier de lui-même. Et on a tous ce sentiment souvent d'être là et de se dire, c'est vrai, j'aurais pu faire plus. Et ça, je crois que ça va être là jusqu'à la fin, ce sentiment, j'aurais pu faire ça. Cette personne, j'aurais pu lui parler. Il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui se disent à la fin de leur vie, j'aurais dû faire ça. Mais aujourd'hui, je veux t'appeler, t'encourager à célébrer le fruit qui est là dans ta vie. L'apôtre Paul était conscient des fruits dans la vie des autres et je crois que dans sa propre vie, il était satisfait avec ce qu'il avait fait. Son temps était venu et il s'était dit « Seigneur, je m'en vais te rencontrer, il y a une couronne qui m'est réservée, la couronne de justice. » Et il n'a pas été là à s'apitoyer sur lui-même. Je veux vous encourager, soyez élevés et regardez au fruit qui est là dans votre vie. Soyez-en heureux et soyez-en fiers. Et Dieu, il est fidèle, il va compter toutes ces choses-là, il va s'en souvenir. Lorsque vous allez devant lui, il va être là pour nous récompenser de tout ce qu'on va avoir fait pour lui. Et c'est un sujet de joie. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui porte pas beaucoup de fruits, peut-être à nos yeux, où il y a des gens qu'on peut regarder en disant, c'est toujours les mêmes qui vont servir à l'église, etc. Mais toi, si dans ta vie, tu as un fruit et tu en es fier, si t'as, peut-être que tu as apporté une ou deux personnes au Seigneur cette année, c'est énorme pour le Seigneur, c'est gigantesque. Et donc, méprise pas ce que tu as fait en tombant dans la comparaison. C'est très dangereux de faire ça. Aujourd'hui, sois heureux et compte ce que tu as fait pour Dieu et dis-toi, Seigneur, je te remercie, c'est un privilège de pouvoir te servir et de porter ce fruit. Je veux en porter encore plus et plus et plus et je veux aller en progressant comme ces gens de Thessalonique. Ils allaient de gloire en gloire, de progrès en progrès et réjouissez-vous de ça. Et puis Dieu, il est tellement fier de nous. Nous, on a le regard trop dur sur nous-mêmes parfois. On doit avoir plus ce regard qui est là. Ouais, Seigneur, je me réjouis et je veux continuer. Je veux aller de l'avant davantage au lieu d'être écrasé. Soyez bénis et portez plus de fruits, mais soyez heureux de ce que vous avez porté jusqu'à présent.
Amen. J'aime bien l'équilibre. Mais c'est vrai, dans Bonjour chez vous, on est les premiers. On a fait des émissions et où on incite les gens à porter plus de fruits. Oui, on doit toujours porter plus de fruits. On doit toujours y aspirer. Et en fait, si on est bien réaliste, le plan du diable, lorsqu'on vient se retrouver à être accusé pensant ne pas porter assez de fruits, c'est de nous empêcher de porter justement plus de fruits. Lorsque je ne réalise pas que je fais des choses bien, que je réjouis le cœur de Dieu par les actions que je pose, les bonnes œuvres que je fais, les personnes vers qui je vais témoigner, etc., etc. Lorsque je suis en train de me condamner, de me dire je suis pas à la hauteur, j'en fais pas assez, frère un tel, sœur un tel, elle en fait tellement plus, je suis pas à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à porter de moins en moins de fruits. Parce qu'en fait, on est en train de se déconnecter peu à peu de la source finalement qui nous fait porter du fruit. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est ça. C'est pas par nos propres force qu'on porte du fruit. Donc comment on peut se condamner de ne pas en porter assez? Sauf si on passe notre vie à résister à l'appel du Saint-Esprit, ça c'est un autre point. Mais si on est une personne où on a un bon cœur, on est bien disposé, on est à l'écoute du Saint-Esprit et on fait ce qu'on a à cœur de faire, même si ce ne sont pas des choses qui, à vue d'œil, sont gigantesques. Peut-être qu'on a témoigné dans la rue à des personnes, puis que personne n'a été sauvé. Alors, je ne sais pas évangéliser, je m'y prends mal, je n'ai pas l'onction sur moi, le Saint-Esprit n'est pas avec moi, j'ai les mauvais mots, etc. On ne sait pas les fruits qu'on porte, on ne connaît pas toutes les semences. Donc, c'est important de réaliser que quand on est en train de se dévaloriser dans ce qu'on fait, on est en train de permettre au diable de nous écraser et puis de nous empêcher de porter justement ces fruits qu'on doit porter. On va voir un verset qui va, à mon avis, vous faire du bien. 1 Timothée 6,18, c'est notre verset du jour. « Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. » Si vous faites certaines de ces choses, vous portez du fruit, vous faites ce qui est bien. Et il ne s'agit pas là de guérir tous les malades que vous croisez, d'amener au Seigneur toutes les âmes que vous croisez. Il s'agit de faire le bien, d'avoir des bonnes œuvres, de partager, d'être généreux. C'est des choses qui peuvent être faites de façon très simple et qui réjouissent aussi le cœur de Dieu.
C'est ça. Je ne suis pas très fort en jardinage, mais j'ai cru comprendre que si on fait pousser des carottes, ce n'est pas en tirant dessus que ça va pousser plus vite.
Effectivement, généralement, on finit par les sortir de terre.
C'est ça. Et des fois, on veut produire le fruit par nous-mêmes. Et c'est ça qui amène une sorte de culpabilité. Quand on se sent coupable de ne pas produire assez de fruits, c'est parce qu'on croit qu'on peut le produire nous-mêmes.
C'est ça.
Parce qu'à partir du moment où on est conscient que le fruit ne dépend pas de ce que je fais, et que ce n'est pas moi qui produis ce fruit, je ne me sens pas coupable de ce qu'il n'y ait pas tel ou tel fruit, puisque ce n'est pas moi qui... C'est un peu comme pour les dons spirituels, c'est le Seigneur qui donne à qui il veut. Donc si je dis, mais moi je veux ça, mais c'est qui choisit et qui est-ce qui veut? Maintenant, ça veut pas... il faut porter du fruit, évidemment, mais le fruit est plus le symptôme ici. Et le fruit, en fait, nous permet de voir quelle est notre relation avec Dieu. Et quelque part, ce n'est pas « je porte du fruit, donc j'ai une bonne donc je vais avoir une bonne relation avec Dieu ». Non, c'est « j'ai une bonne relation avec Dieu et ça se voit et ça se manifeste et ça c'est palpable au travers d'un fruit ». Donc quelque part, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire « qu'est-ce que je dois faire pour porter du fruit ?» Enfin, s'il y a une seule chose à faire, c'est « aime Dieu ». Sers-le, soit dans la louange, l'adoration, la prière, et le reste va venir naturellement. Quelqu'un qui veut porter le fruit de l'esprit, c'est pas de dire aujourd'hui j'ai décidé d'être bon, aujourd'hui j'ai décidé d'être patient. Et il y a intérêt à ce que je sois patient, parce qu'il est hors de question que je ne sois pas patient.
On est impatient de notre impatience.
C'est ça, alors des fois on peut décider des choses comme ça, mais bon, c'est pas mauvais de vouloir être meilleur, mais en fait, plus on est dans la communion avec Dieu, ça se fait automatiquement et naturellement. Et dans ce cas-là, ben, le fruit que l'on porte, ben, c'est celui que le Seigneur... Je veux dire, si nous sommes satisfaits de notre relation avec Dieu, on sera satisfaits du fruit que l'on a. Mm-hmm. Le problème, ce n'est pas l'insatisfaction du fruit, mais c'est plutôt l'insatisfaction de la relation avec Dieu.
Exactement. Et Frank, il y a un point qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on n'a pas tous le même appel.
Non, pas du tout. Et puis, c'est vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, les yeux sont fixés aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et tout ça, sur, bon, entre guillemets, c'est bien, le miraculeux et tout ça, mais les yeux sont beaucoup fixés sur ça, sur les grandes foules, sur les grands rassemblements, et de moins en moins sur le 1-1, le qu'est-ce que je fais dans ma famille auprès de mes enfants, le fruit que je porte, tu vois ce que je veux dire auprès d'eux et tout ça. Et on se compare avec ce qu'on voit les autres faire. Et puis dans 1 Corinthiens 4-2, la parole dit du reste qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'on soit chacun trouvé fidèle. Amen. C'est-à-dire qu'on a chacun notre appel, et puis Dieu sait ce qu'on est capable de prendre, et on rentre pas dans tous ces détails-là, mais Dieu sait ce qu'on est capable de porter par rapport à notre vie. Et puis, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être trouvé fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire. Peu importe qu'est-ce que ça va apporter comme fruit, entre guillemets, t'es fidèle à ce qu'il t'a demandé, et donc, tu vas être heureux dans ta vie, et lui, il va être le plus fier de toi qu'il pourrait l'être. Il t'appelle pas à être une copie conforme de l'autre, ou à avoir les mêmes fruits que l'autre, ou à dire, ben lui, il a fait beaucoup plus que moi. Oui, mais lui, il y avait d'autres choses qui venaient avec ça aussi. Mm-hmm. Toi, tu vis ta vie, et t'es appelé à être trouvé fidèle dans ce que Dieu t'a demandé de faire, et pas des aspirations malsaines, des choses qui viennent pas de Dieu. Au contraire, tourne-toi vers Dieu et comprends ce qui est ton appel. C'est tout simplement ça. Et puis après ça, tu vas voir, les choses vont venir. 2 Timothée 2:15, encore là, Paul y écrit, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, tu vois, il y a un effort à être fait de Timothée par rapport à son appel d'être un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. Ça allait avec son appel, mais Paul l'encourageait. Efforce-toi d'être trouvé fidèle dans ce que Dieu t'appelle à faire, tout simplement.
C'est ça qu'il lui a dit.
Et puis ça doit nous rentrer dans la tête. Mon appel n'est pas celui d'un pasteur, peut-être, d'un chanteur, d'un ci ou d'un ça. Mon appel, pour l'instant, c'est ça. Et puis, on voit toujours trop loin en avant et on vit pas le moment présent et on bénéficie pas de ce que Dieu nous appelle à faire actuellement. Mm-hmm. On a trop les yeux focalisés sur tout le restant, en fait.
Mm-hmm. La Bible nous parle d'un poids éternel de gloire. Et souvent, on n'arrive pas à mesurer ce poids. On n'arrive pas à voir que ce qu'on fait, ça a un poids éternel de gloire. Et du coup, c'est pour ça qu'on méprise un peu ce qu'on fait. Et puis moi, je raconte une petite histoire là d'une Suisse. On pourrait faire un flashback. Elle s'appelle Sylviane et en fait, elle a annoncé l'évangile à ma belle-mère. Qui a annoncé l'évangile à Jérémy Sourdril, que tout le monde connaît. Qui a annoncé l'évangile, en gros, à mon épouse, à Anthony, et de tout ça, tout le monde est né de nouveau à cause d'une personne qui a pas méprisé juste le fait de partager l'évangile. Et elle a juste partagé un peu l'évangile, et aujourd'hui, tout le monde sert le Seigneur, Annabelle, toutes ces personnes-là sont venues au Seigneur parce que, ben, lorsqu'elle était là, elle imaginait pas EMCI, elle imaginait pas Jérémy comme cofondateur, elle imaginait pas que leurs époux, leurs épouses seraient sauvés, mais le poids éternel de gloire, il y avait un poids qui était peut-être pas, elle pouvait pas le voir, mais cette personne est venue, c'est pas une grande évangéliste comme on peut la connaître, c'est pas une pasteur ou etc., elle a juste annoncer l'évangile à quelqu'un. Et puis, ça a été la première semence. Mais comme dit Paul, certains ont semé, d'autres ont arrosé, etc. Mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, ce qu'on est en train de semer, ce qu'on est en train de juste obéir à ce que Dieu nous a demandé de faire, lui, il va faire en sorte que ça ait un poids éternel de gloire. Et ça va peser très, très lourd.
Amen.
Parce que dans l'obéissance de la foi, dans l'obéissance aux choses que Dieu nous appelle à faire, il y a un poids qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne verra pas, qui peut-être aura une portée. Dans le flashback, on verra sûrement que le travail de cette personne, là, Monsieur Félix, a certainement un poids éternel de gloire. Et même déjà, on voit encore aujourd'hui, certainement, on voit que c'est le fruit de son travail.
C'est ça.
Il y a quelque temps, j'ai entendu à la fin d'une prédication, ma femme était là, elle va m'aider pour les détails qui m'échappent. Hein, parce que c'est mon... mon disque dur externe.
C'est charmant. Vous êtes connecté au moins.
Et en fait, raconter l'histoire de... C'est un homme de Dieu et sa fille qui ont fait des campagnes d'évangélisation, mais des trucs de fous, c'était en Asie que ça se passe, avec beaucoup de miracles et des foules et tout. Et là, cette jeune femme est malade, elle est dans son lit, elle va être dans le coma pendant quelques jours. Et quand elle sort du coma, elle va dire « Mais j'ai passé ce temps avec Jésus. »
C'est oui.
Et Jésus était là, comme assis sur mon lit, wow. Et il m'a parlé. Ouais. Et là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle dit « Mais Jésus m'a dit, tu te souviens de… » Et il lui a pas dit « Tu te souviens de cette grande campagne d'évangélisation où il y a eu des foules qui ont été guéries. » Il dit pas « Tu te souviens de cette grande campagne ou de tel et tel événement ou de tel miracle et tel miracle. » Il dit « Mais… » Tu te souviens de la fois où tu as donné une pièce à quelqu'un dans la rue?
Wow.
Tu te souviens de la fois où tu as... Et il lui a parlé que des petites choses, où tu as souri à quelqu'un, où tu as été aimable avec telle personne. Et quelque part, c'est comme ben là, si Jésus venait nous parler et nous dirait, hey, tu te souviens de... Peut-être qu'il nous dirait, mais tu te souviens? Et il nous parlerait de petites choses. Enfin, ici, c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. C'est comme si pour Jésus, ces petites choses étaient plus importantes que le stade, que la foule et autres. Et donc, du coup, si aujourd'hui, certains de dire, ben moi, j'ai pas de stade d'évangélisation, j'ai pas. Ben, Jésus, lui, il a regardé ces petites choses. Et tout comme cette veuve qui donne juste une petite pièce, Jésus l'a vue. Et ces petites choses ont de l'importance pour lui. Alors, ne méprise pas. C'est ça le thème, hein? Ne méprise pas les petits fruits ou les fruits qu'il y a dans ta vie.
Pendant que tu parles, moi, la chose que ça m'évoque, c'est que les petites choses sont vraiment le témoin de notre amour véritable.
C'est vrai.
Parce qu'il n'y a pas de rémunération par la gloire ou par le regard des autres. Il n'y a pas de caméra. Tandis que les grands événements, ils ont aussi leur importance, mais c'est pas des preuves d'amour. Tu peux faire des grands stades juste par volonté de briller personnellement.
C'est vrai.
C'est pas... Par contre, les petites choses que personne d'autre n'a vues, c'est les vraies preuves de notre amour.
Exact, exact. Ah, je crois que quelqu'un reçoit maintenant même, quelqu'un reçoit ce message-là qui fait du bien. Et vraiment, j'espère qu'à la maison, vous arrivez à vous réjouir des fruits que vous avez portés, aussi petits soient-ils à vos yeux. Ils ont une importance capitale dans le royaume de Dieu. C'est vraiment important de ne pas le mépriser. Et on va voir maintenant dans la rubrique flashback, apparemment, selon ce que Anne nous a dit, des gros fruits, des grands fruits. Ouais. On va parler donc de Félix Neff dans la rubrique flashback. Félix Neff, donc, je reprends.
Oui.
Qui est cet homme apparemment assez exceptionnel? On a cru comprendre qu'il y avait une histoire de Hautes Alpes.
Oui, mais c'est un Suisse. C'est un petit Suisse. C'est un petit Suisse, il est né à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la France s'entre-déchirait avec la Révolution française. Lui, il est né en 1797 et ses parents étaient Suisses, mais son père était engagé avec les Voltairiens. En tout cas, il s'impliquait dans la Révolution française, donc il n'a pas vu son fils grandir. Mais c'est devenu un jeune homme fascinant. Et puis, je vous en parle aujourd'hui parce qu'il a vraiment eu un courage étonnant et un fruit énorme par amour pour les petites gens. Et il a porté bien haut les couleurs du royaume de Christ, parce que à cette époque-là, il y a quelqu'un qui disait, c'est l'instituteur du village de Fraissinières, là où il a exercé son ministère, entre autres. Il dit, Félix Neff a rendu des centaines d'êtres humains. Il a rendu à des centaines d'êtres humains le courage de vivre. Il fait partie vraiment de ces gens inspirants qui ont montré l'exemple, qui ont vraiment montré l'exemple de leur amour sincère pour les âmes, et puis la détermination de la foi. Et moi, quand je vois toute son histoire, je me dis, mais quel formidable instrument dans les mains de Dieu. Puis je suis sûre qu'il serait le premier étonné de savoir que 200 ans après ce qu'il a fait, on en parle toujours.
ABCV, à bonjour chez vous.
Bonjour chez vous. Parce que
Félix, si tu nous regardes, ah non, mince.
Je suis convaincue que quand il l'a fait, il était conscient que personne ne voyait ce qu'il faisait et qu'on n'en parlerait pas 200 ans plus tard.
Non.
Puis je dis jeune homme parce qu'il n'a pas eu le temps de vieillir. Il est mort très jeune, mais en 4 ans de temps. Il est mort à 32 ans, mais en 4 ans de temps, c'est les 4 dernières années de sa vie, il a fait un travail phénoménal. On l'a surnommé l'apôtre des Hautes-Alpes. Donc les Hautes-Alpes, on va voir une carte, parce que là, je vous emmène dans la région frontalière entre la France et l'Italie, donc la Hautes-Alpes. Donc il venait de Genève, mais il a travaillé dans les Hautes-Alpes. Puis on va voir une carte un peu plus précise. Donc il travaillait dans toute cette région entre Briançon et il était basé à Dormillouse. Vous voyez en plein milieu de la carte en bas, la Fraissinière, Dormillouse. Et alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'il faisait, il faisait tout à pied. Et il avait plusieurs villages, il s'occupait de tous ces villages-là, de toute cette région-là. Et sur 21 jours, donc 3 semaines, il faisait à peu près 320 km à pied.
Wow.
Il passait des cols de 2800 mètres d'altitude, dans la neige, dans le froid ou dans la chaleur l'été. Et infatigable, il parcourait tout ce chemin. Et l'historienne Alice Wemyss a dit « Hiver comme été, il parcourait les sentiers montagneux de son immense paroisse, guidé par des chasseurs de chamois. Jamais on n'a vu un pareil dévouement.
Mmh. »
Et sa conversion, déjà, c'était tout un miracle, parce qu'il n'était pas du tout d'une famille chrétienne. Je vous dis, son père était voltairien, il n'en avait rien à faire de Dieu. Puis sa mère, bon, elle n'était pas plus croyante que ça. Et pour vous remettre un peu le contexte de l'époque, à Genève, début du 19e siècle, fin du 18e, on croyait plus trop en Dieu. C'est-à-dire que les protestants, la belle flamme protestante, avait pas mal faibli. Les gens allaient toujours à l'église et se disaient protestants, mais la flamme qu'avait fait les grandes heures du protestantisme s'était éteinte. Et tous ces gens qui avaient quand même connu beaucoup de persécutions pour leur foi, hein, au XVIIe siècle et puis tout le XVIIIe siècle, ils avaient beaucoup souffert de leur foi. Et pourtant, ben, c'est pas les persécutions qui sont venues à bout de leur foi, c'est l'esprit du monde qui est rentré dans l'Église progressivement et toutes les philosophies de l'époque. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, c'était le siècle des Lumières,
mm-hmm.
avec toutes ces philosophies, le rationalisme, toutes ces cette pensée scientifique qui dominait le raisonnement. Et donc, à partir de la moitié du 18e, ça a vraiment empiété sur la foi des chrétiens. Et on a donné plus d'importance à ça qu'à la parole de Dieu. Et il y avait le pasteur Ami Bost qui se désolait de cette situation dans les églises. Et il disait, cet enseignement est en effet en triste état, en parlant de l'enseignement biblique. Il disait, la Bible était inconnue dans les auditoires à Genève à cette époque-là. On n'y ouvrait l'Ancien Testament que pour apprendre un peu d'hébreu. Et le Nouveau Testament n'apparaissait jamais parce que les étudiants savaient déjà le grec. Alors c'est un constat vraiment assez consternant.
Oui.
La foi, pour vous dire, donc à Genève, il n'y en avait plus. Là. Au début du 18e, du 19e siècle, on ne croyait plus. Excusez-moi.
Décidément, alors, il y a un petit chat.
Donc là, il faut qu'on meuble, il faut qu'on dise quelque chose.
Une petite chanson, Gwen.
Interruption commerciale.
J'ai une chanson sur Félix Neff, je vais la faire après.
Et il y a même, moi ce qui m'avait apitoyé, c'est que Jean-Jacques Rousseau se moquait des pasteurs.
Ah.
Il disait, ce sont de bien curieuses personnes que ces messieurs vos pasteurs. On ne sait ce qu'ils croient ni ce qu'ils ne croient pas. On ne sait même pas s'ils font semblant de croire.
Aïe, aïe.
Donc vous voyez, c'était pas glorieux. Donc Félix, notre Félix d'aujourd'hui, il est né dans cette ambiance-là. Donc on n'était pas du tout dans une période de réveil qui est venue un peu plus tard à Genève et que le Seigneur a suscité pour réveiller tout ce beau monde. Et Félix, c'était un petit garçon très intelligent. À 3 ans, il savait couramment lire et écrire. Et il se passionnait pour la botanique, à tel point que sa maman l'a placé en apprentissage chez un fleuriste.
D'accord.
Donc il a commencé à s'intéresser à la nature, à la création avant le créateur. Et il a lu beaucoup, beaucoup, hein, tout seul. Il s'est beaucoup instruit. Et il était fasciné à tel point par la nature qu'à 16 ans, écrit et publié son premier livre sur la culture des arbres.
Oh, alors bon. Ah oui, il était passionné.
Il était passionné. Et à 17 ans, il entre dans la police genevoise. Il fallait qu'il gagne sa vie. Hein. Donc, il rentre dans la police genevoise. Et puis, c'était un temps très difficile parce que, comme je vous ai dit, à Genève, la foi s'était pas mal endormie. Mais il y avait des gens quand même qui réagissaient et qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? On se détourne de la parole de Dieu ?» On ne prêche plus la divinité de Christ, on ne prêche plus l'inspiration des Écritures, il faut revenir à la foi qu'on avait auparavant. Mmh. Il y a quelques personnes qui se levaient et qui commençaient à agiter un petit peu les étudiants de théologie, les gens qui étaient plus fidèles dans les églises. Et il y a une nouvelle église qui s'était faite à Genève, à Bourg-du-Four, et les gens qui voulaient revenir à une foi plus authentique et recommencer à lire la Bible se réunissaient à Bourg-du-Four. Alors, il y avait des émeutes parce que les autres personnes des autres églises protestantes disaient « mais ce sont des perturbateurs, on ne veut pas de nouvelle église ». Et la dispute de mots était devenue tellement forte qu'ils en venaient aux mains.
Ah oui,
il y avait des émeutes devant cette église. Et notre Félix était placé en tant que policier genevois devant cette église pour défendre les chrétiens. Sauf que lui, il était d'accord avec les émeutiers en se disant « qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? C'est des perturbateurs, ils ont juste à suivre à l'église normale ». Et À cette époque-là, il y avait un Écossais qui s'appelle Robert Haldane qui était venu à Genève et qui avait commencé à faire des études bibliques chez les gens pour susciter vraiment un retour à la foi. Et dans ce contexte-là, notre Félix a reçu un petit pamphlet et il l'a lu dans l'été 1818 et ça a bouleversé sa vie. Et quand il a lu ce pamphlet, il a compris qu'il était pécheur devant Dieu. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu.
Ah oui,
il s'est
tout simplement
converti wow. avec ce petit pamphlet.
Et faut pas mépriser
faut
les
pas
petits
mépriser
pamphlets.
Mépriser les petits pamphlets. Je sais pas wow. qui lui a donné ce pamphlet, mais ce jour-là, ce petit traité, mais ce jour-là, il a fait quand même un geste qui a porté dans l'éternité.
Il a porté du fruit.
Exactement. Et il est convaincu de son péché et son ami, le pasteur Bost, écrit ceci. Il dit « Croire et s'humilier devant Dieu devint pour lui un besoin pressant. Il fallait alors une prière qu'il nous a plusieurs fois répétée en racontant sa conversion. Ô mon Dieu, quel que tu sois, fais-moi connaître ta vérité et daigne te manifester à mon cœur. » Et Dieu l'a fait parce qu'il a changé radicalement d'attitude, de comportement et il s'est rattaché à cette église de Bourg-de-Four. Et tout va s'accélérer en 1819, il quitte la police parce qu'il est convaincu que Dieu l'appelle à le servir à plein temps. Et il commence à aller évangéliser un peu partout en Suisse romande. Et il prêche dans les prisons, il a vraiment un ministère de réconciliation. Pas d'évangélisation de nouveaux croyants, mais de réveil de ceux qui existent déjà, mais qui sont détournés de la foi. Alors il va 2 ans plus tard en Isère, dans la région de Grenoble, il remplace un pasteur, ça se passe pas trop mal, mais il se rend compte que les églises sont complètement coincées dans toute une façon de faire l'église qui est éloignée de la parole de Dieu, il n'y a plus cette vie de l'église. Et il part ensuite comme stagiaire dans la ville de Mans, et là il y a un gros auditoire, il y a 1200 personnes, et pareil, la foi endormie, sauf qu'il retrouve ses manches, il commence à vraiment prier pour ces gens, parler à ces gens, faire des études bibliques, et le réveil prend place déjà dans cette église-là, et il métamorphose cette première église de Mans. Sauf que ça plaît pas à tout le monde, et il est écarté, mis de côté, parce que en fait, il fait du trop bon travail.
Il porte trop de fruits.
Voilà. Il porte trop
comme
de
fruits. Quoi, hein.
Et pour vous dire à quel point il a eu de l'impact dans cette ville de Mans, et puis dans les villages environnants, il y a plusieurs villages qui se sont complètement tournés vers Dieu, et qui ont renoncé à leurs festivités locales. Donc, toutes les paillardises qu'il pouvait y avoir, les beuveries au moment des fêtes païennes, ils les ont fui. Et la vie dans ces villages-là a été complètement transformée. Puis, ça me rappelle, quand je vous ai raconté le réveil au Pays de Galles, que la vie quotidienne des gens avait été complètement transformée.
Ben, normalement, ça doit nous bouleverser dans tous les domaines.
Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Mans. Mais comme je vous dis, les pasteurs traditionnels ont commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis, ils lui ont offert 2 postes dans des endroits, au Québec, on dirait aux îles Moutmout, hein, c'est-à-dire dans des endroits perdus que personne ne voulait...
Au fin fond du monde.
Fond du monde. Donc, on lui a proposé 2 postes. Un dans les Hautes-Alpes et un autre dans la campagne vers Montpellier. Et il sent vraiment que dans son cœur, que Dieu lui donne son approbation pour les Hautes-Alpes. Donc, c'est la pire, j'allais dire. C'est des régions reculées où il fait froid, t'as 7 mois d'hiver, c'est des populations qui sont assez arriérées. Mais c'est là qu'il va, convaincu que Dieu l'appelle là.
Des petites populations aussi, finalement, en termes de chiffres.
C'est des petits villages. Voilà, hein, donc, c'est des villages de 300 personnes, 200 personnes, voilà. Donc, en 1823, il a 26 ans, il part tout seul dans cette région des Hautes-Alpes que je vous ai montré tout à l'heure. Et il décrit la vie là-bas. Il dit « Il faut ici tout créer. Architecture, agriculture, instruction, tout y est dans la première enfance. Beaucoup de maisons sont sans cheminée, sans fenêtre. Toute la famille, pendant 7 mois d'hiver, croupit dans le fumier de l'étable qu'on ne nettoie qu'une fois par an. Le pain, qu'on ne cuit qu'une fois dans l'année, est de seigle dur grossièrement moulu, non tamisé. Et si ce pain vient à manquer, vers la fin de l'été, on cuit des gâteaux sous la cendre, comme les orientaux. » Donc, il décrit vraiment des villages arriérés de gens qui vivent dans la crasse, qui sont pas éduqués du tout, qui ne savent ni lire ni écrire. Et il ajoute même que les femmes sont traitées avec une extrême dureté, beaucoup de mépris. Elles s'assoient jamais à table, on leur balance de la nourriture par-dessus l'épaule, enfin les hommes. Et elles sont très durement traitées. Donc, vous voyez, une population arriérée à tout point de vue. Et ces gens-là, c'est... En tout cas, peut-être un petit fait intéressant, c'est des descendants des Vaudois. Je vous ai raconté déjà l'histoire des Vaudois et ces gens qui avaient été persécutés pour leur foi suite au travail de Valdo et qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, dans le Piémont italien, mais aussi dans les Hautes-Alpes. Et ces gens-là sont des descendants lointains de ces Vaudois.
Et il n'est pas resté grand-chose, malheureusement.
Il n'est resté rien, bah, parce qu'ils sont retrouvés des toutes petites populations à se marier. C'est toute la consanguinité, se marier entre eux,
oui.
dans des petits villages où ils ne voyaient jamais personne, sans éducation. Donc au bout de, je ne sais pas combien de générations, mais beaucoup de générations, ils sont devenus cette population vraiment pitoyable. Et Félix a été vraiment ému de compassion pour ces gens-là. Et il va consacrer tout son temps, toute son énergie à non seulement les ramener à Dieu, mais aussi amener un changement radical au niveau de leur vie quotidienne. Et il s'est mis sans relâche dans toute cette zone. Je vous ai dit, sur 3 semaines, il faisait plus de 300 kilomètres à pied.
Oui.
Il ne restait pas plus de 5 nuits dans la même place. Et il allait de village en village pour prêcher la parole de Dieu, mais aussi pour leur faire l'école, leur apprendre à lire et écrire et former des instituteurs. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a formé une trentaine d'instituteurs pour qu'il aille leur apprendre à lire et écrire dans tous ces petits villages. Parce que ben, si tu veux les amener au Seigneur, il faut aussi qu'ils apprennent à lire pour pouvoir lire la parole de Dieu. Puis si tu veux qu'il y ait des pasteurs qui amènent la flamme dans les villages, il faut qu'ils puissent lire la parole de Dieu. Fallait donc la première priorité, c'était de leur apprendre à lire et écrire.
Quelle sagesse!
Alors, on va voir la photo. Donc, dans la ville de Dormillouz, il a déjà établi une première école avec une église. On peut la voir dans les visuels, s'il vous plaît. Donc là, on voit à gauche, c'était à l'époque de Félix Neff. Puis elle existe toujours, cette petite église. Je pense que l'école n'existe plus. Et là, il a formé déjà une trentaine de gens et d'instituteurs. Et il formait les élèves. Ils avaient des journées d'école de 14 heures, où c'était vraiment du super intensif et dense. Et en priorité, les garçons, parce que la population méprisait les filles. Mais lui, il a commencé à dire aux parents, « Parfait, j'éduque les garçons, mais j'exige que les filles viennent 2 jours par semaine.
Okay. »
Donc, il a commencé à éduquer les filles aussi. Mmh. Aussi, il avait des talents en architecture. Il leur a montré comment bâtir des maisons plus hygiéniques pour être séparés des animaux. Il leur a appris comment nettoyer leur maison. Il leur a aussi appris amener des canaux. Il a fait recreuser des canaux qui existaient dans le temps. Il leur en a fait creuser de nouveau pour amener l'eau courante près des maisons. Mmh. Il a fait plein de changements vraiment d'hygiène.
Oui.
Il leur a appris aussi, comme il était passionné de botanique, je vous ai dit, il leur a appris aussi à cultiver les pommes de terre avec beaucoup plus en faisant des productions beaucoup plus abondantes. Mmh. Donc il a non seulement prêché l'évangile, et beaucoup se sont tournés vers Dieu. Et il y a eu vraiment un début de réveil. Et il leur a aussi complètement bouleversé leur vie quotidienne. Et à Pâques 1825, il y a eu un vrai réveil, comme on l'entend. C'est-à-dire que voyant tout son zèle, la compassion, l'amour qu'il avait pour les gens, il se donnait sans compter et il les aimait vraiment. Il ne faisait pas que prêcher, mais il faisait vraiment pour les aider. Les gens étaient beaucoup touchés en voyant tout cet acharnement de Félix. Et à Pâques 1825, il y a eu un vrai réveil. Et là, il y a un témoin local qui a écrit ceci. « Cette semaine de Pâques était vraiment sainte pour cette vallée. On ne l'avait jamais célébrée, en parlant de Pâques, mais pour cette fois, c'était toute une fête. On ne faisait pourtant que lire la Bible, prier, pleurer. La jeunesse surtout semblait animée d'un même esprit. Et une flamme vivifiante semblait se communiquer de l'un à l'autre, comme une étincelle électrique. Pendant ces 8 jours de Pâques, de fête de Pâques, je n'ai pas eu en tout 30 heures de repos. On ne connaissait plus ni jour ni nuit. » Donc c'est vraiment, fort. Le réveil a pris. Donc au bout de 4 ans d'efforts, est à 2 ans et demi d'efforts acharnés à transformer la vie de ces gens-là, les cœurs des gens sont touchés et l'Esprit de Dieu commence à se répandre.
Magnifique.
Et on a vraiment connu un vrai réveil. Et c'est un conférencier suisse, Paul Rang, qui vit toujours, puis je le salue s'il nous écoute, qui a dit ceci, puis je vous le lis parce que c'est très bien dit. Il dit « Le réveil spirituel fut indissociable du renouveau sociologique. Les habitants de ces hautes vallées alpines vivaient comme des bêtes avec les bêtes, avant l'arrivée de Félix.
Oui.
L'œuvre de Félix Neff en aura fait des hommes et des femmes dignes d'être des créatures de Dieu. Non seulement des centaines d'hommes et de femmes furent transformés dans leur vie spirituelle, mais toute une région a réappris à vivre. Le miracle de l'esprit, c'est de travailler dans un milieu grossier et corrompu et de produire un fruit de repentance et de conversion.
Amen.
Le miracle de la parole, c'est qu'une société biblique fut créée et que désormais chacun et chacune pouvait posséder une Bible et la lire.
Mmh.
Le niveau moral s'éleva, les églises se remplirent, les habitants réapprirent à cultiver la terre, à construire des maisons et l'hygiène de vie augmenta. Désormais, les humains vivaient dans une vraie maison et ne cohabitaient plus avec le bétail. Le souvenir de Félix Neff sera sur cette terre impérissable et la gloire de Dieu éternelle. » Je veux dire, on est 200 ans plus tard, et puis le travail de Félix, il a toujours des conséquences maintenant. Et toutes ces populations-là sont sorties du trou en 4 ans.
C'est incroyable.
Complètement révolutionné leur vie. Il a amené spirituellement ce renouveau de foi, et il a amené socialement tout ce bouleversement de mode de vie. Et ça me fait penser, un jour, je vous avais fait une rubrique sur Madagascar, à peu près à la même époque, hein, un peu plus tard, 50 ans plus tard à Madagascar, il s'est passé la même chose avec Rainiso Alambo.
C'est ce que je pensais, oui.
Et quand l'esprit se répand, il y a aussi plein de choses qui se remettent d'aplomb. Et, parce que l'humain est tellement aimé par Dieu qu'il veut qu'il ait les meilleures conditions de vie. Et c'est ce qui s'est produit dans les Hautes-Alpes avec Félix Neff, puis avec Rainiso Alambo à Madagascar. Puis sûrement dans d'autres endroits qui restent à découvrir.
C'est vrai. Et de quoi est-il mort alors, puisqu'il est mort si jeune
hein. Il est mort jeune. Alors, il vivait dans des conditions, vous l'avez vu, difficiles. Mm-hmm. Il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne comptait pas ses heures. Et il mangeait une nourriture pitoyable. Hein. On a lu au début de cette rubrique, c'était du pain de seigle grossier. Mm-hmm. Il mangeait que ça. Et pendant 7 mois d'hiver, il n'était pas habitué. Il avait été élevé à Genève dans l'abondance. Et là, il se retrouvait, son corps n'était pas habitué, donc il a traité durement son corps.
Ouais.
Et il a fait, je pense, c'est comme un ulcère à l'estomac. Il s'est mis à avoir des douleurs déchirantes à l'estomac. Il ne pouvait plus prendre aucune nourriture. Donc, au bout de 4 ans dans cette région, il a dû repartir à Genève pour avoir un mode de vie, pour se restaurer. Il s'est un peu restauré. Il a recommencé à prêcher en Suisse. Et en 1829, par contre, son estomac a complètement lâché. Et il est décédé. Il est allé dans la gloire de son maître. Mais je me faisais la réflexion en faisant cette rubrique, je me suis dit, en 4 ans, il a fait plus que beaucoup d'entre nous en 80 ans.
C'est vrai.
Et tout ce qu'il a fait est à la gloire de Dieu, puis il a produit un fruit énorme, énorme, énorme. Il ne s'est pas compté.
Tout à fait.
Par amour.
Ah ouais, c'était très intéressant, Anne, merci beaucoup. Je ne connaissais pas du tout, vous connaissiez Félix Neff ?
Bien sûr.
Mais bien sûr.
Quand j'ai commencé, je lui ai dit, tu connais Félix Neff ? Il fait, oui.
Comme tout le monde.
Mais je ne le connaissais pas personnellement. Je suis tombée un peu par hasard en faisant des recherches sur un autre sujet. Je suis tombée sur un texte qui parlait de lui. Et puis, je me suis dit, mais c'est tout un bonhomme, ça. Je vais leur raconter ça.
C'est impressionnant parce que finalement, en allant dans les Hautes-Alpes, il s'est retrouvé en fait dans une tribu reculée qui aurait pu être au fin fond de l'Amazonie.
Exactement.
Enfin, c'est impressionnant quand même.
Mais parce qu'en France, au début du 19e siècle, il y avait encore des régions de France qui étaient très enclavées, qui ne voyaient jamais passer personne et qui vivaient entre eux. Hein. Surtout les vallées, là on parle de vallées alpines. Qui ne voyaient jamais personne, qui vivaient entre eux, ils se mariaient entre eux, avec tout ce qui s'en suit.
Ça implique, exactement.
Voilà, c'est ça.
Un gros merci, Anne, d'avoir mis à la lumière un homme de foi, vraiment convaincu.
J'ai encore une petite anecdote.
Mais oui.
J'ai plus le temps de la dire. Un jour, il se trouvait dans une auberge, et puis au bar, il y avait deux hommes qui se disputaient pour savoir lequel était le meilleur, parce qu'il y en avait un catholique et un protestant. Puis ils se disputaient, et le protestant se tourne vers Félix Neff, il dit « Hé, pasteur, c'est les protestants les meilleurs !» Et il répond « Non, de ce que je vois, monsieur, vous avez tous les deux le culte de la bouteille.
» Cassé.
Cassé.
Merci beaucoup, Anne, pour toujours tes très belles rubriques flashback. C'était très, très intéressant. J'espère qu'à la maison, l'histoire de Félix vous a inspiré. Et on voit un jeune homme qui était déterminé, plein de foi et qui n'a pas méprisé justement les petits fruits qui semblaient. Parce qu'au départ, on le voit pendant 2 ans et demi, on peut dire, c'est pas grand-chose qui a été fait. Mais il a persévéré, il a continué. Et je veux vous encourager en vous disant, si vous vous comparez peut-être à Billy Graham, ce grand évangéliste, vous allez peut-être mépriser les fruits que vous pouvez porter, mais encore une fois, on n'a pas tous le même appel, et je suis convaincue que lorsque vous faites le bien, lorsque vous faites ce qui est bon, ce que la parole de Dieu vous commande de faire, vous réjouissez autant le cœur de Dieu que lorsque Billy Graham était en train d'exercer son ministère. Soyez vraiment encouragés, ne laissez plus la condamnation venir vous dire que vous êtes inutile dans le royaume, vous êtes utile, vous êtes important, et un simple sourire peut changer la vie d'une personne. Un simple traité d'évangélisation peut changer la vie d'une personne. Donc, on veut vraiment vous encourager à ne plus vous laisser accabler sous un poids de condamnation qui ne vient absolument pas de Dieu. Nous allons donc nous retrouver demain. Notre thème sera « Relève-toi, ne reste pas à terre ». Certains d'entre vous, malheureusement, vous avez chuté, que ce soit à cause du découragement, que ce soit à cause d'un péché. Dieu veut vous relever. Donc, demain, c'est un rendez-vous divin pour vous qui êtes à terre ou si vous connaissez des personnes qui sont à terre, recommandez-leur cette émission parce que nous croyons vraiment que Dieu va vous relever. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.